Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Pierre se dit que si Carole a accepté de ne pas porter plainte et de ne pas divorcer, c'est qu'elle se sent coupable. Il la sent à lui. Il se dit que c'est elle qui est coupable puisqu'elle l'a trompé et humilié. Grande colère entre en lui et même une grande haine. Il aimerait la tuer, lui faire subir les pires souffrances. Mais non, ce sera plus simple de l'humilier comme elle l'a humilié depuis des mois. Elle l'a forcé à accepter qu'elle ait des amants. Qu'il le sache. Il participe à ses dérèglements. Sans rien dire. Oui, il va la faire payer tout ça. Quant à son fils, il verra. Auguste lui demande « Tu as peur de revenir vers elle ?» Pierre lui répond « Non, sûrement pas. C'est elle qui devrait se sentir gênée. » Auguste lui dit « Tu as raison, mon fils. Mais quant à ton fils, laisse-moi faire. Je vais m'en occuper. Ce qu'il a fait nous rend service. » Maintenant, elle est à nous, cette garce. arrivait devant l'immeuble de Carole, une sorte de voiture. Hugues d'entrer en appelant à l'interphone pour montrer à Carole qu'il est chez lui et le chef, il entre dans l'allée directement avec sa clé. Prennent l'ascenseur. Il prend sa clé pour ouvrir chez lui, avec sa clé. Pour pouvoir montrer qu'il ne vient pas invaincu. Après l'entrée, il tombe sur la bonne. Elle lui dit « Oh, monsieur !» Pierre, agacé, lui dit « Eh bien oui, c'est moi. J'ai bien le droit de rentrer chez moi. Ma dame est où ?» Elle lui dit « Elle est au salon, monsieur. Bien, nous y allons. » Il ouvre la porte du salon et ils entrent. Elle est surprise de les voir. Il est entré comme ça. Comme si de rien n'était, elle allait penser qu'il sonnerait. Elle se lève et va à eux. Puis elle attend. Pierre lui dit « Bonjour Carole, tu vas bien ?»« Moi aussi. Je veux te dire, c'est que j'accepte la vie en commun. Mais je ne veux plus de tes écarts. Désormais, c'est moi qui commande. » Elle lui dit, tu oublies ? Il lui coupe la parole. Non, je n'oublie pas. La preuve, plus d'écart. Mon père est là pour aider à la réconciliation. Et au moindre écart, il ira voir Franblanc pour lui dire que ton comportement ne serait pas bon pour la maison et des relations avec toi. Carole lui demande, qu'est-ce que tu veux ? Il lui dit, « Toi, tout à moi, et c'est à moi d'être libre. » Elle lui dit, « Je donne ta liberté, tu peux même vivre ailleurs, sans moi. » Il lui dit, « Surtout pas, je tiens trop à toi. » Elle lui dit, « Fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas comme ta première femme. » Il lui dit, « Je sais. » Elle était pauvre et fidèle. Elle lui dit, tu oublies de dire qu'elle était jolie et très malade. Moi, non. Auguste lui dit, la santé, ça va, ça vient. Carole lui dit, vous êtes apothicaire de poudre à perlimpinpin. Il lui dit, je vois que vous entendez. Que vous entendez très bien. Je vais vous laisser. Carole se dit qu'elle est prise entre les griffes de son mari et de cette famille de fous. Elle fera tout pour se débarrasser de son mari. Pierre lui dit, ne tremble pas, je te battrai pas. Elle lui dit, mais je ne tremble pas. Il lui dit, à la moindre incapable, je préviens mon père. Elle lui dit, oui, bien sûr. Pendant ce temps, Auguste est rentré chez lui. Il dit à sa femme au salon, tout est arrangé. Le soir, lorsque rentrent les garçons, Auguste dit à Eric de le suivre à son bureau. Ils y vont. Le grand-père s'assoit à son bureau. Eric reste debout devant le bureau. Le grand-père lui dit « Tu as eu une liaison avec ta belle-mère. » Eric devient tout rouge. Le grand-père lui dit « Ne mens pas. Il ne faut plus que ça continue. Je ne vais pas te faire des reproches. Je sais que c'est elle qui t'a séduite. Est même venu à toi. Tu es un jeune garçon et tu étais fier qu'une femme aille à toi. C'est mieux que de se masturber seul. Mais cette femme est la femme de ton père. Tu ne peux pas. Si elle avait été libre, je n'aurais rien dit. Je connais la jeunesse. Mais là non. Alors tu vas arrêter. Et si tu n'arrêtes pas, je te mets en pension. » Eric lui dit « J'arrête, mais vous ne trouvez pas que la pension, pour la pension, je suis un peu trop vieux ?» Auguste Furieux lui dit « Peut-être pas la pension, mais pour la maison spécialisée pour les jeunes en difficulté, allez, va dans ta chambre !» Eric sort du bureau. Il entre dans la chambre de Frédéric, qui a son bureau à écrire. Il lui dit « C'est toi qui m'as dénoncé pour Carole ?» Frédéric lui dit « Non, et pourquoi l'aurais-je fait ?» Eric lui dit « Par jalousie ?»« Mais je n'aime pas Carole. Je le sais. Tu dois la détester, même. » Mais ne te fais pas de soucis, même si j'ai Carole. Toi, tu es toujours à moi, Frédéric lui dit. Tu me fais faire du souci en me disant que je suis à toi. Eric hausse les épaules et lui dit, à ce soir, mon chéri. Et il sort de la chambre. Frédéric dit « Pauvre con, famille de tarés, si Carole trompe père, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à garder mère en vie. Elle au moins lui restait fidèle. » Et la vie reprend. Cette fois, ce n'est plus Pierre qui est soumis à Carole, mais Carole à lui. Et il en profite, lui donne des temps d'ordre. Elle doit lui téléphoner toutes les 2 heures pour lui dire où elle est. C'est lui qui décide de toutes les dépenses. Et c'est sur sa carte que la plupart se fait. Carole ne voit plus personne. Elle n'a plus de rencontre. Elle ne voit plus le petit Denis qui s'étiole parce qu'il ne la voit pas. Sa mère ne sait que faire. Il n'a goût à rien. Ne va plus à ses cours. Il reste toujours des journées entières au lit. Sa mère a peur. Elle va souvent le voir dans sa chambre. Et lui demande « Que tu as ?» Ne lui répond pas. « Pourquoi est-ce que tu veux rien me dire ?» Ne dit rien et lui dit « Je sais plus ce quoi te dire. Elle ne veut plus te voir. Je savais bien que c'était pas une bonne fille. Les filles sont toutes les mêmes. Font la coquette. Ils font faire n'importe quoi aux garçons. Elles aiment les faire souffrir pour elles. Elle ne se rend pas compte, la mère, qu'en parlant comme ça, c'est et lorsqu'elle abaisse, humilie les filles, les femmes, elle s'abaisse elle aussi parce qu'elle a été fille et qu'elle est femme. Et lorsqu'elle dit les garces, comme elle aussi a été fille, elle est aussi une garce alors. Elle lui dit, mon pauvre petit, que veux-tu? Il n'y a qu'une femme au monde qui t'aime vraiment, et c'est ta mère. Les autres, ce n'est rien. En disant cela, elle l'enfonce encore plus, parce qu'il se dit qu'il ne peut trouver de femme et qu'il vivra toujours avec sa mère. Et en vivant toujours avec sa mère, c'est se priver de femme. Cela le rend encore plus malade. Elle ne sait que faire pour le remonter. Elle lui dit toujours la même chose. Si au moins elle lui disait d'en chercher une autre, mais bien au contraire. Peut-être qu'intérieurement, elle souhaite qu'il reste toujours à elle et que pour cela, la maladie peut le garder et en faire sa chose. Elle le soignerait comme un enfant, resterait toujours avec elle et près d'elle, sans aucune femme entre elle et lui. Et puis, ça lui fera une bonne réputation, l'on dira. La bonne madame qui soigne son fils malade, pauvre femme, va, elle a beaucoup de soucis et de courage, il en faut, pour soigner un jeune homme qui est son fils. On en parlera chez les commerçants. Elle deviendra la brave dame. Elle demandera des nouvelles du petit, puisqu'il est resté au cours des années à cause de sa maladie. Et comme personne ne le verrait, donc on ne le verrait pas vieillir. Il resterait petit. Il n'aura plus d'âge. Où son âge se sera arrêté à 18 ans, pour toujours. Elle se fera une bonne petite vie tranquille avec lui. Ne recevra personne. En s'excusant, le petit est malade. Vous comprenez? Elle ira à des thés juste pour se faire remarquer et apitoyer. puis c'est bien pour sa réputation. Elle dira « J'ai mon petit !» parce qu'elle ne restera pas longtemps à cause de « J'ai mon petit !» Les filles de génération en génération rêveront en silence de ce jeune et beau garçon de 18 ans malade, très malade. Parce que la mère aura toujours dans son sac la photographie de son fils, une vieille photographie qui vieillira mais restera la même. Elle représentera ce beau jeune homme de 18 ans. Même certaines jeunes filles feront des prières pour qu'il guérisse en pensant à la photo prise 20 ans plus tôt ou 25 ans. Elle pense à tout ça, la mère, se voit déjà habillée de noir, respectable à cause de la maladie de son fils. Et son fils, toujours à elle, sans sexe, dans sa chambre, dans son lit, les volets clos. Cette chambre d'enfant qui n'a jamais quitté, qui deviendra un tombeau. Une chambre mortuaire d'un roi du Nil. Petit à petit, elle ne verra plus son fils. Ou le verra comme on voit une momie, comme on va au cimetière. Elle ira tous les jours dans la chambre de son fils, comme les vieilles qui vont au cimetière, sur leur tombe de leur mari, comme ça par habitude, et ne voient plus, à cause de l'habitude, la personne qui est dans la tombe. Ne ressemble plus à rien, juste de l'habitude. Elle ne pensera à son fils pas en le voyant, parce qu'elle ne le voit plus, mais en parlant. Mais elle en parlera pour se faire une condition sociale, comme l'on dit. Comme l'on dit, je suis notaire, comptable, marin, etc. Elle aura comme condition dans la société, c'est pour la faire connaître, reconnaître, c'est la maladie de son fils. Si elle n'avait pas ça, elle ne saurait rien. Personne ne ferait attention à elle. Elle vivrait seule. On dirait, tiens, mais c'est la pauvre madame. On n'aurait rien à dire. On ne dirait pas la pauvre madame pour la plaindre, mais pour dire la pauvre femme va. Et c'est tout. Pauvre femme, qu'elle vivrait seule, elle ne ferait rien. Là, elle vit avec son fils et le soigne. Beaucoup de femmes, et un médecin me l'a dit, aiment avoir quelqu'un chez eux de malade pour qu'on la plaigne. Elle est quelque chose à dire. Même certaines femmes poussent leur mari, et c'est vrai, à boire pour se faire plaindre. Elles ne veulent pas qu'il guérisse parce qu'elles n'auraient plus rien. Et elles ne seraient plus plaintes. Le pauvre Denis, va-t-il se faire dévorer par sa mère ? Il est à peine malade qu'elle commence à déposer. Des médicaments, des choses pour le purger. Elle joue à la garde malade. Cela fait chaud au corps de s'entendre dire que l'on est bien méritante chez le boulanger. Bien entendu, elle ne va pas agir comme ça, mais d'une façon inconsciente, en croyant faire son devoir et être vraiment une femme méritante. Si on lui disait que c'est une salope, une criminelle qui tue son fils pour se faire une situation dans la société, elle ne le croirait pas. Elle serait furieuse. Pour le moment, c'est le début. Elle l'enfonce en croyant lui remonter le moral. Carole, elle souffre de sa situation. Elle étouffe. Ses aventures lui manquent. Elle en a assez. De temps en temps, le couple est invité chez les grands-parents pour dîner. C'est un supplice pour elle, un vrai supplice. La belle-mère qui la reçoit en l'embrassant et lui disant « C'est gentil d'être venu, on croyait que vous étiez fâché contre nous. Viens, Eric, dire bonjour à ta belle-mère, qui est ta nouvelle maman. J'espère que vous n'êtes pas fâché que je dise ça. » Carole lui dit « Non, bien sûr, non, absolument pas. » Et Eric arrive furieux pour embrasser sa belle-mère. La grand-mère leur dit « Tout est bien qui finit bien. » Auguste vient lui aussi leur dire bonsoir. Vous semblez en pleine forme, comme si vous aviez une nouvelle lune de miel. Elle se dit « Le salaud !» Il y a juste Frédéric qui reste à part. Pendant le repas, on ne fait que lui faire des mamours. Elle étouffe, surtout qu'elle voit qu'Eric lui aussi étouffe. En le voyant, elle le désire de plus en plus et est prête à n'importe quoi pour le voir. Mais comment ? Lui, Frédéric, voit bien que son frère aimerait bien voir Carole. Il se dit, s'il pouvait être occupé avec elle, comme ça, il pourrait me laisser tranquille. Il est même prêt à les aider. après le dîner, ils vont tous au salon. Eric s'est assis en face de Carole, Frédéric à côté d'elle, Pierre entre ses parents qui sont en face de Carole. Ils boivent un petit bonbon qu'on leur a servi. Auguste dit à son fils, « J'ai quelque chose à te montrer pour le travail de demain. Viens. » Ils sortent du salon. Carole, sans faire exprès, se renverse un peu d'alcool sur sa robe. Amélie lui dit, « Ce ne sera rien, Frédéric. Mène-la à la salle de bain et dis à la bonne de la rejoindre avec un produit pour les tâches. » Carole lui dit, « Je suis confuse. » Ils se lèvent tous deux et sortent du salon. Frédéric lui dit, « Je suis bien content de quitter cette ambiance. » Carole sourit et lui dit, « Moi aussi. » Frédéric lui dit, « Vous savez, je vous aime bien et je n'aime pas la façon dont on vous traite. Ils sont ignobles, comme avec ma mère. » Elle lui sourit, l'embrasse sur la joue et lui dit, « Merci. » Tout en continuant à aller vers la salle de bain, il lui dit, « Vous savez, je comprends ce que vous ressentez et ce que ressent mon frère. Je suis en avance sur mon âge et j'aime les histoires sentimentales. Vous êtes jeune, plus jeune que mon père et même plus près de nous que de lui. » Elle lui dit, « Merci. » Il lui dit, « Si vous voulez, il y a quelque chose à mon frère, passer un message. Je peux prendre le message. On ne fait pas attention à moi. Et ça m'est facile de le faire. » Elle lui dit, « Merci. Mais que désirez-vous en échange ?» Il lui dit, « Que vous aimiez beaucoup mon frère. » Elle lui dit, « Je vous le promets, parce que je l'aime beaucoup. » Il ouvre la porte de la salle de bain et lui dit, « Voilà, je vais prévenir la bonne. » Elle lui dit, « Merci. Mais pour votre proposition, comment pourrions-nous faire ?» Il réfléchit et lui dit, « Je vais, oui, et bien ma foi, vous serez obligé c'est de venir ici. » Passez un moment et en étant ici, vous passerez le message. » Elle lui dit, « Mais je vais être obligé, c'est de venir à chaque fois. » Il lui dit, « Oui, au début, après nous verrons. » Elle lui dit, « Vous direz à votre frère que je pense à lui et aimerais le voir, mais... » Elle entre dans la salle de bain. Lui va prévenir la bonne et se dit... chose est mise en route. Eric va être occupé avec son histoire sentimentale et me laissera en paix. Et comme je suis le messager, s'il me essaye de me faire des choses, je le dénoncerai ou ne lui porterai plus ses messages. Elle se dit dans la salle de bain, « Pourvu que ce ne soit pas un piège. » On frappe à la porte, elle fait, « Entrez, c'est la bonne, une petite blonde habillée en bonne. » Elle a à la main un torchon et une bouteille.
Bonjour, madame.
Bonjour, mademoiselle. Une fois qu'ils sont partis, la famille va à leur chambre. Auguste dit à Amélie, ça semble aller, elle a l'air d'avoir compris. Amélie lui dit,
oui, surtout que on a été correct avec elle, aucun reproche.
Entre chacun dans leur chambre.
Frédéric se dit, si Eric m'embête, je ne lui dis pas pour le message. Il se prépare pour aller se coucher. Dans la nuit, il est réveillé par la porte qui vient de s'ouvrir et voit Eric. Il s'approche du lit. Frédéric lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Eric lui dit, je viens prendre ce que tu me dois. Frédéric lui dit, si tu me touches, je te dis pas ce que m'a dit de te dire Carole. Il surprit mais dit, je m'en fiche. Frédéric est prêt à tout, même à se taire. Et il se penche. Frédéric lui dit, tant pis, tu ne le sauras jamais. Et Eric lui dit, si tu me le dis pas, je te bats. Si tu me bats, je crie et je dirai à grand-père ce que m'a dit Carole pour toi. Toi, tu iras en maison et Carole aura une bonne correction. Eric hésite. Il désire son frère, mais a peur de la maison. Et puis Carole n'est pas mal non plus. Il lui dit, bien, ça va, recule. Il recule. Parle. Frédéric lui dit, si tu ne me touches après, je le dis à grand-père. Eric lui dit, parle. Frédéric lui dit, elle m'a dit de te dire qu'elle pense beaucoup à toi et qu'elle veut te revoir. Elle ne sait pas comment. Et pour ce qui est des messages, tu passes par moi. Elle est d'accord. Eric lui dit, tu as trouvé le truc pour que je ne te touche pas. Mais attention. Attention. Que je sois libre. Et tu verras. Frédéric lui dit. Alors, pas de rendez-vous? Qu'est-ce que je lui dis? Eric réfléchit et lui dit. Je te le dirai plus tard. J'en sais rien, mais... Il soupire et dit. Tu ne veux pas?
Non.
Pourtant, tu en as autant envie que moi? Frédéric lui dit. Tu vois bien que non. La preuve. Tu es là. Et je lui dis, tu me paieras dès que Carole sera en sécurité. Frédéric lui dit, et toi aussi. Eric lui dit, je serai libre, vite libre et indépendant de mes parents. Et là, Frédéric lui dit, oui, mais moi, je serai aussi, et de toi, parce que plus grand, plus fort. Eric lui dit, oui, mais tu resteras toujours le même. Il lui fait un clin d'œil et lui dit, je sais que tu aimes. Et il quitte la pièce. Frédéric est heureux. Il est sûr qu'il en a fini avec son frère, qu'il le tient. Il croit que ce sera toujours comme ça. Mais malheureusement, la vie change, bouge toujours. Le bonheur n'est jamais définitif, comme tout ce que l'on fait. Tout bouge, tout change. Les gens comme tout ce qui nous entoure. Lorsque l'on est heureux, l'on veut à ce que le temps et tout restent figés éternellement. Mais ce qui reste figé ne vit pas. Et puis même les pierres s'effritent au temps et meurent. Frédéric attend. Eric est fier que Carole, malgré les interdits, les punitions, continue à penser à lui. Il ne peut pas faire autrement que de penser à elle, à vouloir lui aussi la revoir. Au fond de lui, il aime mieux son frère, mais par fierté, parce que Carole est une femme, belle, etc. Il la veut et la met en avant. Mais avec un rien d'amertume. Il se demande quand est-ce qu'il peut la revoir. Deux jours plus tard, ce chemin qui les mène au lycée, Frédéric lui demande, alors, t'as trouvé? Eric lui dit, non. Frédéric lui dit, Le jeudi, on n'a pas cours entre 11h30 et 16h. Tu lui donnes rendez-vous dans un lieu public. Tu rends ce temps libre. De toute façon, personne ne fera attention. Parce que tu quittes toujours tes grands-parents à 13h30. Eric lui dit, mais tu as raison. Ils auront tout le temps. Et père est au travail. Mais où ? Frédéric lui dit. Au jardin des plantes. Oui, c'est très bien. Après, nous prendrons un taxi. Allez, dis-lui, jeudi en 15 à 14h, devant l'entrée du jardin des plantes, côté quai. Frédéric lui dit. Bien, je lui dirai. Mais écris-le. Eric s'arrête de marcher, ouvre son cartable, prend un cahier et un stylo, écrit sur la feuille et la lui tend. Tiens, merci. Et ils continuent leur route. Frédéric lui dit, tu vois que je te sers tout de même à quelque chose. Eric lui dit, c'est normal, tu es à moi. Frédéric lui dit, et toi à moi? Eric lui dit, c'est normal que tu te sentes à moi et tu as besoin de moi. Eric lui dit, je ne voyais pas les choses comme ça. Et puis nous sommes frères, non? Eric lui dit, ça ne veut rien dire. La famille, ce ne sont que des gens que le hasard fait vivre ensemble. Eric lui dit, oui. Et pourquoi as-tu besoin que je sois ta chose? Eric lui dit, par plaisir, ton plaisir. Frédéric lui dit, idiot. Et ils entrent au lycée et se séparent. Les jours passent. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.